Bonjour tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui Anglemar Vidéo, je vous parle de Tout le monde en parle, édition du 4 octobre. Chaque lundi, ce sera ce que je vais faire. Chaque lundi d'ailleurs, ce sera ma chronique avec l'équipe de Bouchard en parle au FM 93 à 15h. Et puis voilà, donc, et en même temps, c'est la grande première de Anglemar Vidéo. Aujourd'hui, c'est un test, j'ai besoin d'avoir beaucoup de feedback, je veux savoir si ça vaut la peine, si vous aimez ça. Et avec moi, mon co-animateur, D-Toutou, beaucoup de personnes m'ont demandé, parce que j'ai parlé dans une récente chronique, c'est quoi les objets qui vous suivent depuis que vous avez quitté chez vos parents? Eh bien, moi, c'est D-Toutou qui pourrait, je dis bien pourrait, co-animer avec moi chaque angle mort. Et pour ça, encore là, je vais avoir des réactions. Donc, likez, abonnez-vous en grand nombre, montrez-moi qu'il y a quelque chose dans cette formule-là qui vous attire et que vous aimez, mais pour l'instant, D-Toutou, tu ne seras pas aujourd'hui dans cette émission. Alors, donc comme d'habitude, un petit varia sur ce qui s'est passé pendant le week-end. J'ai eu un week-end, comme beaucoup de monde, notamment les célibataires, plutôt moche, plutôt plate, plutôt isolé. Mais moi, j'ai profité, j'ai décidé que pendant le confinement, j'allais faire une remise en forme spectaculaire. Alors, au moment où on se parle, il est... je l'ai ici. Il est 8h le matin, lundi le 5 octobre. Et je n'ai rien mangé depuis 6h vendredi soir. Donc, ça fait grosso modo une quarantaine d'heures que j'ai juste pris du café le matin, puis j'ai bu beaucoup d'eau. Et hier, j'ai fait du vélo, j'ai fait mes journées comme d'habitude. J'essaye ça à partir de maintenant de jeûner le dimanche. Alors moi, il faut que vous sachiez que je fais du jeûne intermittent qui est très populaire auprès de plein de monde, notamment les gens qui s'entraînent. Les bénéfices restent à découvrir. Je ne peux pas vous dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est... » On dirait que chaque fois que quelqu'un fait un nouveau jus de céleri, sa vie vient de changer. Non. Je vais voir à la fin du mois parce que je vais être plus rigoureux. Mais règle générale, depuis quelques semaines maintenant, je mange absolument rien après mon souper. Donc moi, je soupe tôt. Je suis un gars qui soupe... aux alentours de entre 5,5 et 6,5. Puis quand c'est fini, c'est terminé. Terminé! Ça va uniquement au lendemain matin ou quand je me lève, lecture, café, angle mort, upload, là je déjeune. J'ai acheté un Power Slice, ça s'appelle là, au Costco, des tranches de pain très faibles en glucides à 15 grammes par tranche. C'est que mon déjeuner est hyper protéiné. Puis je fais du gym, puis là j'ai encore un nouveau programme, en tout cas bref. Ça fait que j'essaye ça, le jeûne intermittent. Donc, ce qui me surprend, c'est la forme que j'ai ce matin. J'ai beaucoup mieux dormi que d'habitude, moi qui dors bien. Moi, je suis monsieur vessie hyperactive. Là, je suis tout le temps rendu à la toilette. Il y a deux nuits de ça, c'était une vraie farce. Et puis là, tout à coup, je me suis réveillé, il était 6 heures. Ça a-tu rapport avec ça? Je ne sais pas. Mais il semblerait que du jeûne bien fait, alors, donc intermittent plus une journée où là, tu gobilles rien, là, tu manges absolument rien. Ça devrait être bon. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. Ceci étant dit, j'ai fait ma ride de vélo quand même. J'ai fait un 30 km hier. Puis c'est ça qui me fait capoter, c'est que je me sens... J'ai bien dormi. En tout cas, peut-être que vous pratiquez ça aussi à l'occasion du jeûne. Vous m'en donnerez des nouvelles. Outre ça, ce soir, pour mes abonnés Patreon, c'est notre grande première. Je fais un Zoom collectif gratuit, uniquement pour les abonnés Patreon. Donc, ça va être le même concept que Chef Boilardi Live, c'est-à-dire les gens peuvent poser des questions, puis je pars 10 minutes chronométrées. Quand c'est terminé, une autre question, puis on va voir combien de temps. Alors, on va être combien? J'ai aucune idée. C'est tout à fait une première. Et à cet effet-là, je veux remercier Jason, qui me suit sur YouTube, puis qui hier m'a donné des très bons trucs, très bons conseils. Il m'a fait découvrir Discord, qui est une plateforme plus de gamers, mais qui permet de faire comme l'équivalent d'une ligne ouverte. Ça fait que les gens qui installeraient Discord pourraient interagir, blablabla. En tout cas, il me reste des choses à découvrir, mais tout ça pour vous dire que quand vous mettez du temps à m'aider à développer mes podcasts, c'est tout le temps très apprécié. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, à partir de maintenant, chaque lundi, je vais vous faire une chronique qui pourrait s'appeler « Personne n'en parle » parce que je fais une analyse de « Tout le monde en parle ». Pourquoi « Tout le monde en parle » Parce qu'il reste qu'après 14 ans d'existence, cette émission-là est un peu un « snapshot » de ce qui se passe dans beaucoup de choses dans la société qui préoccupe les Québécois. Hier, j'ai trouvé que c'était une émission de sensibilisation extrêmement bien faite, notamment le docteur qui est venu parler, qui nous a dit une grande chose. Je vais commencer par ce point-là. C'est le docteur Marquis, je pense, celui qui fait 24-7, là, que vous écoutez peut-être. il nous a dit quelque chose qui, dans le fond, résume beaucoup la position que j'ai toujours eue là-dessus, sur la question autour du COVID, puis du virus, puis des politiques pour le contrer, etc. C'est que dans la vie, pour se prononcer, il faut être habilité à le faire. Il y a deux raisons qui font qu'on peut ne pas être habilité à le faire. De un, c'est qu'on n'a pas assez de renseignements. Puis de deux, c'est qu'on n'a pas l'expertise pour agir sur les renseignements. Puis moi, je juge que je n'ai pas ce qu'il faut pour déterminer c'est quoi bien contrer un virus, etc. Donc, je m'en remets aux autorités parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse l'inverse. Alors, les gens qui me disent non, 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 bien, vous n'avez pas plus de raison d'aller complètement à l'opposé. Je veux dire, à un moment donné, il faut se brancher sur ce qui nous apparaît le plus important. Porter un masque, tant qu'à moi, il n'y a rien là. Et puis, j'ai fait un petit test que je peux faire avec vous autres, avec l'équipe à Bouchard la semaine passée. J'ai dit, si je vous me pose la question, est-ce que quand il fait moins 25, vous mettez une tuque? Il y a plein de monde qui va répondre oui. Puis à ces gens-là, si je vous dis le gouvernement va maintenant vous obliger à porter une tuque à moins 25, bien, ceux qui capotent, c'est du monde qui ont de la misère avec l'autorité en général. Puis qui vont prendre leur analyse du masque, puis qui vont finalement en faire une grande analyse rationnelle quand en réalité, ils n'aiment juste pas l'idée que quelqu'un leur dit quoi faire. Fait que tout ça pour dire que j'ai trouvé qu'il a dit une affaire qui était hyper intéressante, c'est que le virus est rempli d'incertains. Ce virus-là va évoluer de façon incertaine, comme semble-t-il tous les virus. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est infecté aujourd'hui puis qui guérit va peut-être avoir quelque chose qui va arriver dans un an ou peu importe. Ça fait qu'il y a de l'incertain même pour quelqu'un qui est un expert dans ce domaine-là. Donc, comment on fait pour tirer des conclusions sur des prémisses incertaines? C'est comme si je vous disais, j'aimerais ça que tu me fasses une pizza. J'ai un ingrédient que je te dévoile, c'est de la pâte à pizza, puis les cinq autres, je te dis pas c'est quoi. Puis toi, tu me réponds, yes, m'a te faire une bonne pizza carnivore, pepperoni, fromage. Je viens de te dire que si je te dis pas c'est quoi les cinq autres, je te dis juste qu'on veut la même affaire, on veut faire une pizza. Mais il y a quatre ingrédients mystères, c'est peut-être des Fruit Loops, puis du yogourt aux fraises. Tu vas me faire une pizza à quoi? M'a te faire une pizza carnivore, c'est ça qui est bon. C'est la même affaire. Si vous pouvez pas juger comme il faut des prémisses, parce qu'elles sont incertaines ou parce que vous ne connaissez rien là-dedans, comment vous faites pour tirer des grandes conclusions sur ce qu'il faudrait faire? Alors, j'ai trouvé que sa job était très bien faite, puis à tort ou à raison, parce que je ne peux pas dire « il a la raison infuse », c'est exactement mon point, à tort ou à raison, ça ramène la question de qu'est-ce qu'on fait dans un monde, non pas idéal, mais avec un peu de jugeote, pour essayer de contribuer à stopper ça, bien, on met un masque, on fait une distanciation, on essaie de moins voir le monde pour le moment, t'as l'affaire. Est-ce que les autres mesures qui sont prises, par exemple pour les bars puis tout ça, est-ce que c'est too much ou autre? Moi, je trouve ça bien plate. J'ai plein d'amis qui travaillent là-dedans. Je pense que c'est exagéré. Mais comprenez-vous, à part « je pense », qu'est-ce qu'on peut légitimement dire? C'est que je trouvais que la job était bien faite. Même affaire avec Guilbeault, que moi, je souhaiterais qu'il éventuellement deviendrait vraiment première ministre du Québec parce que cette femme-là a une envergure extraordinaire. Je trouve qu'elle se présente bien. Hier, là, tout le monde en parle, c'était un exercice de communication comme j'ai rarement vu. Dans le sens que c'était très bien fait, c'était fait poser. J'y reviendrai là, fois après fois, là, mais pour moi, ça a été très bon. Ça a été vraiment une émission qui a fait en sorte que quand tu l'écoutais, tu avais le goût d'aider à cette cause-là et non pas d'y nuire. Puis la cause étant qu'on arrête d'être aux prises avec ça. Puis qu'on arrête d'être aux prises avec ça, ça ne veut pas dire d'éradiquer le virus complètement, mais au moins qu'on essaye de faire un effort vers en avant qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne va probablement pas avoir besoin de faire ces efforts-là pour soit apprendre à vivre avec ou pour tout simplement l'éradiquer à coup de vaccin ou à coup de « il s'est effacé » ou peu importe. Ça fait que, bref, puis je sais qu'il y en a que j'ai beau dire ça puis qui ne sont pas d'accord, puis c'est pas grave, c'est correct. Mon point, c'est pas de dire « soyez d'accord avec moi, vous me connaissez ». Mon point, c'est de dire, êtes-vous habilité à juger quand les prémisses sont floues? Faites juste réfléchir à ça deux secondes. Bref. C'était la première fois que j'écoutais Tout le monde en parle depuis que c'est et en direct et sans public. Je veux vous souligner, parce que ça va être plus ça aujourd'hui que je vais vous parler, là. Vous savez, je suis un gars de com. C'est pas clair c'est quoi la différence qu'il n'y ait pas de public. La seule affaire que je trouve, c'est qu'on réalise que Tout le monde en parle, c'est pas un entretien, c'est un interrogatoire. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que Guy a toujours, et il l'assume totalement, dit « moi, je pose des questions, la réponse appartient à mon invité ». Fine, je sais, je suis allé, moi. En avril 2007, je suis allé là, Puis, même si je me suis fait tomber dessus par les gens qui étaient là, c'est très facile de s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où tu es articulé et tu as une réponse aux questions, ça passe à une autre question. Il n'y a personne qui te coaxe comme une entrevue, mettons, de journaliste, là, Paul Arcand qui est là, qui te peinture dans le coin. Ça fait que c'est pas difficile d'aller à tout le monde en passe. Ça peut l'être si tu es un être de fragile qui. Mais si tu as le moindrement du bagou et tu t'exprimes assez aisément puis que tes idées sont claires ou du moins clairement émises, bon, les gens vont être d'accord ou pas, c'est pas important. Mais il reste que c'est pas compliqué. Mais ça m'a sauté dans la face. Pourquoi? Parce que moi, je fais des podcasts. Puis j'ai toujours fait quelque chose qui ressemble à des podcasts. Rappelez-vous, je vous parlais de Dans le trafic, qui était la dernière heure quand j'animais le retour au 93 avec Paul l'été 2018. 19, donc pas l'été qui vient de passer, l'autre. Puis chacune des dernières heures, c'était une longue entrevue avec des politiciens, avec des humoristes, peu importe. Jacques Tanguay, des gens qui avaient une notoriété dans la région de Québec, de tout acabit, tu sais. Puis au début, je surprenais mes collègues parce que je préparais jamais de questions. Puis je disais, non, je fais par exprès. Je veux pas avoir la béquille de la préparation. Je veux que cette entrevue-là aille partout. Puis je suis pas ici pour les coaxer. C'est pas un service public, cette heure-là. C'est on apprend à connaître quelqu'un avec qui, si je suis pas d'accord, je le dis. C'est pas complaisant pour la même raison, mais il reste que c'est pas le but. Puis hier, ça m'a sauté dans la face, le fait qu'il n'y ait pas de public, à quel point c'est juste un interrogatoire. C'est-à-dire, je te pose une question, tu réponds, je pose une autre question. Ça a toujours été ça, mais là, je trouve que ça nous saute dans la face. Ce qui fait que vous n'aurez jamais un moment croustillant à tout le monde en parle. Ça arrivera jamais. Pas dans cette dynamique-là. Tu ne pourras jamais avoir tout à coup quelque chose où ce que la personne s'est sentie attaquée, puis là, il y a eu une empoignade avec telle affaire. Ça n'arrivera pas. C'est pour que ça arrive, il faut quelqu'un qui soit en conversation. Tu parles, j'écoute, ça me fait penser à quelque chose. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Mais la formule, elle fonctionne. Hier, l'émission, je trouvais ça super bon. Puis ça a fait une job, je trouve, importante. Je le répète, c'est vraiment mon point de vue. Mais il reste que, ce bout-là, je voulais vous le souligner parce que quand vous voyez l'émission de même, vous comprenez les qualités et les défauts. Fait qu'attendez-vous pas à « Hey, as-tu vu hier à tout le monde en parle? Il s'est passé telle affaire. » Il n'y a rien dans le concept actuel pour qu'il se passe des affaires croustillantes. C'est lui pose une question, la personne répond. Concernant Régis Labeaume, alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu le colon de tous les invités. Dans le sens que... Puis moi, je suis complètement beaucoup plus pro-Labeaume que l'inverse, je vais le dire tout de suite. Puis je suis pro-tramway. Pour avoir pris un tramway à Paris, un tramway, c'est hallucinant, là. Ça n'a rien à voir avec un autobus. Si tu le dis, c'est parce que tu n'as jamais pris le tramway. Puis toutes les histoires de « Ah, mon Dieu, ça va défigurer la ville. » Bien, qui fait des rénovations dans sa cuisine sans défigurer sa cuisine le temps que ça se fasse? Je comprends pas cet argument-là. Ça, c'est hallucinant partout, à Barcelone, à Marseille, à Paris. J'ai pris le tramway à plein de places. À Marseille, j'ai-tu pris le tramway à Marseille ou je me trompe avec un nom? Je pense que c'est à Nantes, en tout cas, bref. Puis c'est pas vrai que c'est lettre, là, c'est le contraire. Ça fait zéro bruit. Ça arrive là, comme dans Star Trek quand les portes ouvrent. C'est fantastique. Tu fais ça de même. Moi, je trouve que c'est hot un tramway. Maintenant, si les gens à Québec n'en veulent pas, ça, c'est une autre affaire, mais. Alors, hier, défend son tramway, défend les affaires avec Choix FM, etc. Mais cette espèce de façon de communiquer-là, très conviviale, très quasiment moué. Tu sais, je trouvais qu'après ça, tu avais Geneviève Guilbeault qui a les habits de la fonction. Tu avais les trois personnes qui sont venues pour parler de la cause autochtone, super articulées, tu sais, qui... Ça fait que tu fais comme, ouais, je veux bien croire qu'il est très sympathique là-bas, mais es-tu obligé d'être vraiment dans l'extrême convivialité? C'est le seul point que je pense que s'adapter à l'audience, c'est hyper bon, mais l'audience de tout le monde en parle, à cause du contexte où tout le monde autour n'est pas comme ça, est-ce que c'est payant par définition? Ce bout-là, j'ai un bémol. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Geneviève Guilbeault, je vous l'ai dit, je trouve que c'est moi, je ne suis pas en pamoison avec les politiciens de facto. pas du tout. Mais elle, voilà, elle joue dans une grosse ligue, puis je trouve que c'est top. Ça fait que je suis très content de la job qu'elle fait. Puis c'est un énorme plus pour la CAQ. Puis voilà, je suis vraiment un fan de la fille à cause de le signal qu'elle dégage. Et que vous aimiez ça ou pas en politique, c'est hyper important. La politique, c'est deux affaires. C'est la psychologie et la communication. Laissez faire le reste. Le reste, ça découle d'eux. Donc, vos sensibilités sont sollicitées. C'est ça l'histoire. C'est de la com, puis c'est la psychologie des personnes à qui on parle. Ça finit par faire de la politique. Beaucoup de gens qui sont pro Donald Trump ne se rendent pas compte, qui sont pour ce qu'il dit, mais ont de la misère à dire ce qu'il fait. C'est quand même totalement fantastique. Ils vont dire « Ah, les médias traditionnels lui tombent dessus, etc. » Mais ils sont souvent eux-mêmes le piège de ça. C'est-à-dire qu'ils aiment le fait qu'il est direct, que il est peut-être bête, mais il dit les vraies affaires, etc. On est beaucoup dans son mode de fonctionnement, mais qu'est-ce que les gens peuvent vraiment dire de Trump qui a fait ça, c'est bon pour la population, etc. Quand on regarde surtout le chaos créé par la suite, tu fais comme c'est bizarre. On dirait que les gens qui sont pro-Trump sont surtout pro comment il gouverne, puis son côté très irrévérencieux qui permet aux gens qui ne sont pas contents avec les démocrates ou la façon que les États-Unis se déroulent, c'est plus un défouloir que quelqu'un de qui on peut dire « il a mis ça de l'avant, il a fait ça ». Les États-Unis, excuse-moi, ça va pas bien, là. Ça fait que bref, c'est une autre conversation, mais c'est juste pour vous illustrer que on est tous aussi des personnes avec une sensibilité, puis ça vient peser sur le jugement qu'on a par rapport à ça. Geneviève Guilbeault, évidemment, a parlé de l'UPAC, puis a parlé de la Red Jordan, etc. Je veux juste faire une petite parenthèse à Red Jordan. Les gens se demandent des fois, c'est quoi cette affaire-là de la Red Jordan? La Red Jordan, là, sans vous expliquer les tenants et aboutissants, là, ça a juste mis un frein aux causes qui s'éternisent tout le temps. Donc, ça a été un wake-up call fait au système judiciaire et pas aux gens qui sont poursuivis ou autres. Il y en a qui se disent, ah, oh, ça permet maintenant à du monde, pour à cause de la charte, de passer à travers les mailles du filet. Ça n'a pas rapport. Je vais vous donner un exemple très concret. OK, vous le savez, moi, je suis avocat, là. J'ai fait un stage. Tu es obligé de faire un stage de 6 mois. J'allais faire des requêtes. Puis, je vous le dis, là, le nombre de fois où moi, j'étais témoin de causes qui étaient prêtes à être entendues le jour même. Les deux avocats étaient là, tout était prévu, et à la dernière minute, le nombre d'avocats que j'ai vu dire « Excusez-moi, mon client est en Floride. » Ouais, puis « Mon client est en Floride. » L'autre, il apprenait « Ah, ton client est en Floride. » Ouais, c'est ça. C'est ça mon excuse. Puis là, le juge faisait « Ben, coudonc, il n'y a pas de témoin, c'est épouvantable. » J'ai vu ça, là, vous n'avez aucune idée, en 6 mois. C'est l'excuse la plus débile que j'ai vue. Puis je l'ai vu tout le temps. Ça, à un moment donné, il y a du monde qui ont fait « Hey, là, regarde, là, on va vous le dire, là, à partir du moment où l'accusation tombe, là, vous avez 6 mois pour faire, peu importe l'ordre des choses. » Ça fait en sorte que là, il y a eu un branle-bas de combat. Ça a été hautement discuté là, dans toutes les instances judiciaires, où là, les avocats, tout le monde a fait « Calvasse, là, il faut qu'on se mangle, il faut qu'on se débine, là, on ne peut plus reporter à l'infini. » C'est que ça. Fait que ça a été un électrochoc au système. Donc, ne pensez pas que ça a du mauvais. Alors, est-ce que Normando est coupable ou pas coupable? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas. Comment vous faites, vous autres, pour dire « Ah oui » ou « Personne ne peut le... » Excuse-moi. Mais ce qui est clair, c'est 4 ans et demi de temps à dire « Allez-vous me le faire, le procès? Faites-moi-le. Mais allez-vous le dire, moi, c'est quoi l'affaire? Puis vous allez voir, on va le régler. » Incroyable. Ça fait que, donc, la Red Jordan, c'est super top. Yvan Godbout, alors ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai fait une petite recherche, puis sérieusement, c'est un grand mystère. Grand mystère, cette affaire-là. Yvan Godbout, c'est lui qui a écrit Hansel et Gretel et qu'il a fallu qu'il aille en cour d'appel pour pouvoir se trouver innocenté d'accusation de matériel de pornographie juvénile. Selon 163.1 de cette loi-là, nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l'infraction, OK, parce que je vous lis le 163.1.1. Quiconque produit, imprime ou publie ou en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Quiconque produit, imprime ou publie en sa possession de la pornographie juvénile. C'est que le problème, tu te dis, calvasse, la loi, ça n'a pas de sens, ça veut dire même une fiction. Même quelqu'un qui dit « c'est une histoire, là, c'est pas vrai, là. Je vous raconte un roman, mais oui, dans ça, il y a des scènes, comme tous les films d'horreur. C'est un film d'horreur impliquant des enfants, je veux dire, bon, on aime ou pas, mais... » Sauf que plus loin, ça dit Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article si les actes qui constituent l'infraction A ont un but légitime lié à l'homme des affaires ou aux arts. Puis après, ne pose pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Tu fais comme basé sur quoi? Vous avez été en cour avec ça. Comment le procureur de la Couronne a dit « faut poursuivre, c'est épouvantable » quand la loi dit clairement le premier article, c'est pas bon dans la mesure où c'est pour des fins éducatives ou aux arts, en comprendre, littérature. C'est hallucinant. C'est honnêtement hallucinant. Ça fait que cet homme-là a été démoli parce qu'il a fait un film, un livre, comme Stephen King en a fait, je ne sais pas combien, comme le Marquis de Sade a fait 10 fois pire. Moi, j'ai lu La philosophie dans le boudoir, puis après 12 pages, j'ai fermé le livre. Puis j'ai fait « OK, je vais le finir », mais c'était comme « c'est l'enfer ». Ça fait que vous allez dire « pas obligé de s'en réjouir », je suis bien d'accord, mais si la fiction fait en sorte qu'on prend un crime dans la vraie vie, puis qu'on dit « on le transpose », puis tu n'as pas le droit d'écrire des enfants martyrisés de façon graphique, parce que ça vient de la pornographie juvénile, c'est hallucinant. Puis la loi est hyper classique. Moi, cette cause-là, je vous le dis, je trouve ça plutôt très, 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 très capoté. Et finalement, Pierre-Yves McSween, qui a dit des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire le salaire, c'est pas si important, c'est l'actif. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup d'affaires qui grandissent pendant votre vie, puis à un moment donné, ça génère de l'intérêt ou autre, vous pouvez aussi, en parallèle à ça, travailler tranquillos, etc. Ça fait que moi, j'achète son point de vue complètement. Mais il n'y a rien qu'un truc actuellement que je veux porter à votre attention, c'est quoi maintenant le futur? Pensez-y deux fois, là. C'est quoi le futur? Réchauffement climatique, virus qui pète, puis regardez ce que ça donne, clivages sociaux, médias sociaux, n'importe quoi, Internet... La vitesse du progrès a dépassé la capacité d'adaptation. Une de mes choses que je préfère et que je crois, c'est quoi le futur? Je ne veux pas être pessimiste parce que je suis d'une nature hallucinamment optimiste, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce que je te dis? Je suis obligé de te le dire. C'est quoi le futur? Avant, le futur, là, c'était comme ma mère, c'était comme sa grand-mère, puis c'était comme son arrière-grand-mère. Ils se mariaient. Dans le temps, c'était une ferme. Après ça, c'était à banlieue. Un avait une job, l'autre élevait les enfants. Sérieux, on était dans un cycle. Là, maintenant, on n'est plus dans un cycle. On est comme dans une, on dirait comme une espèce de fusée qui a décidé de partir. Personne ne sait où. Ça fait que moi, je réponds juste à Pierre-Yves. Écoute, tout ça, c'est intéressant, mais en même temps, tu sais, parce qu'il disait, on dit des fois à quelqu'un de 20 ans, profite de la vie, tu commenceras tes affaires plus tard. Il dit, faites l'inverse. Il dit, à 20 ans, commences-tu à te mettre de l'argent de côté, puis à 45, tu te mettras à glander. OK, je ne suis pas contre la logique, mais à 45, glander, ça va être quoi quand quelqu'un qui a 20 ans dans 45 ans? À quoi va ressembler le monde dans 25 ans? Fait que, tu sais, peut-être que ça donne le goût de dire « je suis aussi bien de faire mes projets ici maintenant ». En tout cas, moi, c'est bizarre, mais j'ai vécu de même par instinct depuis le jour 1. Moi, j'ai décidé que l'important, c'était toute mon checklist. C'était de devenir avocat, faire des spectacles à Paris, acheter un condo en Floride, faire de la radio, écrire des livres, tout. Il n'y a rien. Être gérant d'artiste, faire des shows, j'ai tellement fait d'affaires. C'est sûr que j'ai jamais été outre-performant dans rien. J'ai jamais été le Martin Matt d'une chose, le juge patente, comprends-tu? J'ai choisi un cheminement où est-ce que toutes les affaires que je vais faire, alors là, depuis plusieurs années, maintenant, je te dirais depuis que je suis revenu de Paris quasiment, là, je suis sur un axe vraiment média, là, après ça, podcast, etc. J'ai comme fait tous les projets, je les ai faits. Bien, je vous avoue que ça aussi dans la tête, parce que c'est bon ce qu'il dit, Pierre-Yves. Il dit, tu sais, quand tu as une certaine indépendance, puis que tu dis, sais-tu quoi, avec cette job-là, c'est de la merde, pendant 6 mois, je prendrai le temps d'eux, c'est extraordinaire. La liberté, c'est extraordinaire. Mais la liberté de dire, moi, j'ai fait tous les projets que je voulais, c'est vraiment hot. C'est que ça vient-tu avec une privation financière? C'est un combat, c'est un peu droite-gauche. C'est matière à réflexion. Alors, je vous rappelle que c'était mon premier angle mort post-Tout le monde en parle. Voyez-vous, il y a du jus. Vous aimez ça ou pas, c'est pas clair, c'est à vous autres de me le dire. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là parce que je reviens sur une émission, donc ça me permet de faire plein d'affaires. Thumbs up, abonnement, dites-moi, donnez-moi vos commentaires, dites-moi si vous aimez. Évidemment, la formule angle mort vidéo sera exactement celle que vous connaissez, donc à peu près la même durée, etc., mais en vidéo, et l'audio va tout le temps continuer aussi pour ceux qui préfèrent me suivre en audio. Je vous remercie et puis j'attends vos commentaires. C'était bien le fun de faire ça.